Bon, donc, un peu de repère historique. Alors, je vais être rapide. Je vois déjà Aziz qui s'inquiète quand il voit que je remonte à 1939. Il dit, ça y est, on est foutu, il va nous faire l'histoire complète. Non, je vais juste centrer là-dessus pour dire, voilà, historiquement, c'est donc une institution, le lycée professionnel, qui apparaît, qui est directement issu d'une initiative prise par le gouvernement de l'avant-guerre au moment de la préparation de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de former des centres de formation accélérée pour l'industrie de guerre. Vous noterez au passage, je ne peux pas m'empêcher de faire la remarque à chaque fois, en septembre 39, s'inquiéter de l'industrie de guerre, si vous voulez, c'est vraiment le dernier moment, hein, puisque la guerre a été déclarée. Disons, ouais. Et donc ces instituts, ces centres vont être pour l'essentiel annexés à des écoles techniques qui existaient déjà, qui sont les futurs lycées techniques, futures filières technologiques, et le gouvernement de Vichy les récupère et les transforme en une institution à double finalité. D'une part, continuer la formation des ouvriers. Il faut savoir, je le rappelle rapidement, le gouvernement de Vichy était très préoccupé de restaurer les valeurs fondamentales de la France, et notamment le travail manuel. Et donc, ils ont une politique assez étonnante de ce point de vue-là, et notamment, le gouvernement de Vichy a accéléré la reconnaissance du CAP comme étant un critère de qualification et donc de salaire. Donc, le gouvernement de Vichy est une période tout à fait étonnante de ce point de vue-là. Donc, ils ont facilité le développement de ces établissements qu'ils ont appelés soit centres de formation professionnelle, soit centres de jeunesse. Donc, c'était le deuxième objectif. C'était évidemment un objectif idéologique, transmettre l'idéologie vichysoise à la jeunesse française. Et donc, je passe là-dessus. Et finalement, en 1944, la France se retrouve avec plus de 800 établissements, 880 si mes souvenirs de la thèse sont exacts, et environ 45 000 élèves. Alors on ne les appelait pas élèves, on les appelait apprentis, équipiers. Enfin, ils étaient là à plein temps et, bon an, mal an, ils apprenaient un métier. Et donc, du coup, le gouvernement provisoire de la République française de 1944 récupère immédiatement ces établissements et les conserve et les transforme. Alors là, on utilise un nouveau vocabulaire, on dit « centre d'apprentissage ». Mais en réalité, ce sont des établissements où on travaille à plein temps et où on prépare le CAP pour aller vite. Hein. Alors, plus ou moins bien, dans des conditions que vous imaginez pour le moins pionnières. Mais enfin, voilà, ça fonctionne et ça répond, on va dire, à un besoin de l'époque assez clairement identifié. Vous savez qu'on est avant le baby-boom, donc la France est un pays démographiquement faible. Il faut reconstruire, on a besoin de main-d'œuvre. Et donc, tout ce qui forme de la main-d'œuvre rapidement ou relativement rapidement est soutenu. Notamment soutenu par une organisation professionnelle qui a fait parler d'elle il y a quelques années à l'intérieur du MEDEF, qui s'appelle l'Union des industries mécaniques et métallurgiques, qui s'appelait à l'époque métallurgique et minière, l'UMM, qui a soutenu très très fortement le développement de ces établissements, parce qu'évidemment à l'époque c'était commode d'avoir un établissement scolaire qui formait des ouvriers qualifiés rapidement et qui les présentait directement opérationnels à l'entrée des entreprises. Donc ça devient des centres d'apprentissage qui ont un statut en 1949, donc on a attendu 4 ans pour définir le statut. Donc là, vous voyez, tout de suite, on commence la question de l'ambiguïté. Est-ce que ces centres sont des centres qui forment, à l'époque essentiellement des ouvriers, et qui donc relèvent de l'industrie, du ministère du Commerce, qui sont proches des CFA, etc., ou est-ce qu'ils sont dans l'éducation nationale? Et c'était l'enjeu, où est-ce qu'on les confie à l'éducation nationale? Et là, il y a eu un choix qui a été fait, avec une formule à l'époque qui était portée beaucoup par les syndicats enseignants et particulièrement la CGT qui, avec l'UMM, était l'autre pôle de soutien de ces établissements, c'était qu'il s'agissait de former l'homme, le travailleur et le citoyen, et donc on souhaitait que cette formation soit profondément technique, ouvrière, mais en même temps qu'il y ait une garantie d'enseignement général et d'enseignement technologique. On parlait aussi d'humanisme technologique, c'était une expression assez à la mode à l'époque. Donc finalement, le compromis se fait autour de l'idée que ce sont des établissements qui portent un nom, centre d'apprentissage, qui renvoie clairement au monde du travail, mais qui vont être intégrés à l'éducation nationale. Alors, quelques mots là-dessus sur l'identité des PLP, puisque c'est quand même autour de ça qu'on doit travailler ce matin. Jusqu'en 1952, les PLP sont des contractuels. Ils ne s'appellent pas PLP, ils s'appellent professeurs de centre d'apprentissage. Ils sont contractuels et la CGT se bat pour que le statut qui leur soit accordé soit un statut calqué sur la convention collective de la métallurgie et notamment de l'aéronautique. Parce que les ouvriers qualifiés, hautement qualifiés de l'aéronautique étaient très bien payés. Il y avait Mais la CGT n'était pas trop d'accord à l'époque pour qu'on aille vers un statut de prof. Il y a des textes très drôles des dirigeants du SNEDP CGT de l'époque qui disent « il faut se méfier d'une culture trop livresque ». C'est l'école de la classe ouvrière, donc il ne faut pas aller trop vers le livre. Et il serait préférable que nos enseignants restent des gens qui ont un contact étroit avec l'entreprise. La CGT réclamait même un retour tous les 5 ans d'un an en entreprise. Vous imaginez les revendications aujourd'hui. Donc je le dis simplement pour souligner combien il y avait à l'origine ce double ancrage. D'un côté, l'entreprise, le travail, le monde du travail, le monde ouvrier, et de l'autre, quand même, l'éducation nationale, pour garantir, évidemment, qu'il y ait une éducation qui soit complète, un apprentissage complet, et qui soit à l'abri de l'exploitation immédiate de l'apprenti dans l'entreprise, avec un souci de transmission d'enseignement général. Donc finalement, il y a débat là-dessus, et c'est en 52 que ce sont les profs d'enseignement général, d'abord, qui sont fonctionnarisés, et qui, eux, se battaient, à l'inverse des collègues d'atelier, pour être fonctionnarisés. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tous instituteurs, pour la plupart. Les PLP d'enseignement général, sont des instituts au départ. Pourquoi des instituteurs ? Ça permettait de quitter la campagne pour aller en ville. C'était le grand problème des instituteurs autrefois, c'est qu'ils n'avaient pas envie de rester dans les villages isolés du monde rural. Ça leur était pas facile, et les centres d'apprentissage étaient presque toujours dans les banlieues des grandes villes. Donc d'un côté des instituteurs, de l'autre des ouvriers qualifiés, titulaires d'un CRP, recrutés comme contractuels moniteurs. Donc vous voyez, cette double identité à la fois scolaire et, on va dire, entrepreneuriale ou du monde du travail, elle s'incarne dès le départ dans deux catégories d'enseignants qui ont peu de choses en commun, hein, qui n'ont parfois une origine populaire et encore pas toujours. D'un côté des instituteurs, de l'autre des ouvriers qualifiés. Et donc finalement, c'est la logique de l'éducation nationale qui l'emporte, et donc en 54, tout le monde devient fonctionnaire. Mais vous voyez, il y a quand même un délai de 10 ans entre le moment où le gouvernement récupère cet établissement et le moment où finalement l'ensemble des personnels a un statut de fonctionnaire. Mais là, il va y avoir un nouveau débat, je le dis aussi, parce que dans l'identité des PLP, même si aujourd'hui cette mémoire a disparu, mais je pense qu'il en reste quand même des traces. Évidemment, ils deviennent professeurs, mais quels professeurs ? Quel statut va-t-on leur donner ? Alors, on ne va pas leur donner le même statut que les professeurs certifiés. Il a été envisagé, évidemment, les syndicats réclamaient d'avoir le même statut que les professeurs certifiés des écoles, des collèges, pour simplifier, je vais dire des lycées techniques, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'est la même chose, des lycées techniques. Mais immédiatement, le SNES et d'autres syndicats montent au créneau en disant hors de question, il n'est pas possible que des gens qui n'ont qu'un CAP ou qui ont un bac pour les instituteurs obtiennent, dans le cadre de la fonction publique, le même statut que des gens qui ont des licences. Donc, stop, ils ne seront pas... ça a donné lieu à des combats assez virulents intersyndicaux. Hein. Et donc, finalement, on va leur donner un statut, pour les profs d'enseignement général, le même que celui des fameux PEGC de cours complémentaires et de collège. Donc, en gros, un statut intermédiaire entre l'instituteur et le certifié. À la fois intermédiaire en obligation horaire, 25 heures par semaine, à l'époque, pour les professeurs d'enseignement généraux, et puis un salaire entre les deux. Et puis, les professeurs techniques, on va les appeler professeurs techniques adjoints, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas tout à fait comme les professeurs techniques de lycée. Et eux, on va leur demander, à l'époque, c'était 40 heures. Ils étaient 40 heures dans l'établissement, puis progressivement, on a diminué. On a attendu, je crois, le statut PLP des années 90 pour que tout le monde ait à peu près la même obligation horaire, qu'on soit professeur d'atelier ou professeur d'enseignement général. Voilà, donc vous voyez, je décris ce petit moment d'historique parce qu'il me semble assez intéressant pour montrer à quel point notre identité dans l'enseignement professionnel est constamment travaillée par des tensions entre deux mondes et des logiques sociales qui sont tout à fait différentes. 1959, les grandes réformes du général de Gaulle, les centres d'apprentissage deviennent collèges d'enseignement technique. Alors, vous voyez, là, on voit bien, il y a l'enseignement technique d'un côté, collège de l'autre, et on a toujours cette double identité. Et puis, c'est le moment de la croissance massive du nombre d'élèves. On était passé de 45 000 à 300 000, comme vous le voyez, avant 59. On va passer de 300 000 à 700 000 aujourd'hui, donc le nombre d'élèves ne cesse de croître. Et en même temps, la massification, la démocratisation, etc., changent les structures. Donc, en 1976, nous cessons d'être CET pour devenir lycée d'enseignement professionnel. La sémantique n'est pas gratuite. Au moment où on devient lycée, le technique redevient professionnel, ce qui, vous savez, dans la hiérarchie implicite du vocabulaire de l'éducation nationale, professionnel, c'est quand même un peu moins théorique, un peu moins élevé dans la hiérarchie des savoirs que technologique. Donc, à la fois statut de lycée, mais professionnel. Voyez. C'est intéressant de voir ça, parce que ça veut dire que constamment, l'institution hésite sur la place qu'elle va donner à ces établissements. En même temps, évidemment, ça correspond au développement du BEP qui a été créé en 66, et progressivement, le fait qu'on commence à se demander si l'orientation doit se faire comme elle se faisait avant, en fin de cinquième. C'était un héritage de la période de la guerre, où les élèves de centres d'apprentissage passaient le certificat d'études, puis ensuite rentraient directement dans les centres. Donc ça s'est traduit dans les années 60 par une orientation fin de cinquième. Quand j'ai commencé, moi, au BEP, mes élèves venaient de cinquième, et ils rentraient en CAP. Donc en gros, ça allait de 14 à 17 ans. Et puis, toujours à la demande d'ailleurs de l'UMR, on crée ce nouveau diplôme, le BEP, qui lui recrute en sortie de troisième, avec l'idée qu'il faut... Alors à nouveau, le discours, pas du tout le discours éducation nationale, le discours des entrepreneurs, il faut des ouvriers plus polyvalents, adaptables à des situations complexes, un peu mieux formés en enseignement général. Donc on monte le BEP, on se retrouve avec ces deux diplômes qui ont été concurrents et parallèles pendant longtemps. Et puis évidemment, on arrive à 1985, lycée professionnel, création du bac professionnel, on garde le CAP, qui continue de fonctionner, on garde le BEP et on rajoute les deux années post-BEP pour atteindre le niveau du bac, ce qui fait que là encore, on fabrique un bac bizarre, puisqu'il se passe en 4 ans, avec une phase intermédiaire qui est celle du BEP, et en gros, c'est la moitié des élèves à peu près qui est de BEP au national. Hein, ça, alors là encore, c'est très variable selon les spécialités, mais au national globalement, c'est un peu plus de la moitié qui continuait en bac pro, et donc l'autre moitié qui s'arrêtait au BEP. J'ajoute, j'ai oublié de dire pour terminer cette fresque historique très rapide, parallèlement, au moment de la création du BEP, on avait inventé les classes dites de première d'adaptation qui permettaient aux élèves titulaires d'un BEP d'être intégrés à une première technologique. C'était une passerelle pour rejoindre le bac techno. Donc vous voyez, encore une fois, hésitation, tension, est-ce qu'on est dans le professionnel? Est-ce qu'on fait un diplôme typiquement professionnel? Est-ce que le professionnel, est un moyen de éventuellement repasser vers une voie plus exigeante en termes d'enseignement et ouvrant à l'enseignement supérieur qui était technologique. Vous voyez, il y a constamment, ces établissements sont constamment travaillés par des logiques, à la fois des logiques de hiérarchisation des qualifications, des logiques professionnelles et des logiques éducatives. Pour terminer sur les enjeux qui se jouent autour de ça et montrer à quel point c'est complexe, Antoine Pro, qui est un historien tout à fait remarquable, a fait un petit travail sur la question du choix du terme bac professionnel. Parce qu'en réalité, là aussi, c'est encore l'Union des industries mécaniques et métallurgiques qui est une des plus. Qui presse le plus pour créer un nouveau diplôme au milieu des années 80. C'est toujours la même. Leur principe est le même, hein, en gros. Leur idéologie ou leur manière de penser les qualifications, c'est que avec la montée en puissance des machines automatiques, de l'informatisation, des modes de production beaucoup plus rationalisés qu'autrefois, c'est l'idée que l'ouvrier a de moins en moins besoin d'avoir immédiatement des savoir-faire, techniques professionnelles, pratiques, manuelles, mais qu'en revanche, il lui faut une capacité à se percevoir et à se penser dans un système de production complexe, à être capable de digérer des informations, de les transmettre, etc. D'où l'idée, il faut des gens mieux formés au niveau général et ayant une culture technologique plus large pour en faire une main-d'œuvre adaptable. L'autre idée étant aussi que les conditions de production changent tout le temps et donc il faut une main-d'œuvre polyvalente, etc. Donc d'où la demande du BEP, d'où la demande alors pas du bac pro. Il ne demande pas un bac pro en 1985, il demande un diplôme supérieur au BEP, mais surtout un diplôme qui ne conduise pas à faire des études supérieures, parce que leur problème, c'est d'embaucher des ouvriers qualifiés, avec un diplôme élevé, mais pas des gens qui vont continuer à faire des études, parce que pour le reste, ils ont le BTS, etc. Donc il y a un débat là-dessus. Et finalement, pourquoi choisit-on bac professionnel vocable, avec ce que ça représente, vous le savez, sur le plan juridique? Ça veut dire que dès qu'on appelle un examen, un diplôme baccalauréat en France, ça veut dire que c'est le premier diplôme universitaire. Ça veut dire qu'on met un universitaire qui préside le jury, ça fait partie des tâches que nous essayons de fuir désespérément chaque année au mois de juin, mais on nous nomme quand même forcément président d'un jury. Vous savez, les présidents de fac envoient tous les ans un mail en disant « qui veut bien cette année présider les jurys ?» Donc on y va, on fait rien, on se contente de signer les bacs à la fin, on ne participe pratiquement pas, évidemment pas à l'évaluation, d'ailleurs nos collègues du secondaire ne souhaitent absolument pas qu'on s'en mêle, mais il faut bien qu'on signe, parce que c'est le premier diplôme universitaire. Donc ça ouvre la porte à la fac. Donc le moment où le bac pro s'appelle bac pro, ça y est, c'est un diplôme universitaire. Donc débat, et finalement, Antoine Pro a trouvé une petite note dans les archives qui était rédigée par Louis Schweizer, qui était à l'époque le chef de cabinet de Laurent Fabius, qui dit ceci, baccalauréat professionnel, bonne annonce, bon effet d'annonce, donc ça va sonner bien dans l'opinion publique, ça résout le problème, partiellement le problème du chômage, parce que ça va permettre de garder les jeunes un peu plus longtemps à l'école, il le dit comme ça, hein, c'est écrit de cette manière-là, et puis ça répond à la demande des industriels, etc. Alors en fait, on ne sait pas comment le mot baccalauréat est venu, ce qu'on sait, c'est que, et c'est pour ça que je vous le dis, ce que Pro montre très bien, c'est que le lobby qui a été le plus efficace pour obtenir ce mot de baccalauréat, c'est le syndicat des proviseurs de lycées professionnels, qui y voyait évidemment l'espoir de la réalisation d'une vieille revendication, être reconnu et payé comme les autres proviseurs de lycée. Et donc il y avait une forte pression pour obtenir ce mot. Alors évidemment, Schweizer dit finalement, bac c'est bien, c'est l'annonce, hein, c'est un effet d'annonce, un hein, public, baccalauréat, etc. Et voilà comment ce diplôme demandé par l'industrie, j'insiste là-dessus, demandé par l'industrie, devient un baccalauréat, parce que dans la logique interne du système, et comme on est dans le système éducatif, ça devient un bac. Voyez. Donc vous voyez, constamment, vous retrouvez ces tensions. Sur le bac pro 3 ans, je peux faire la même démonstration, c'est l'UIMM qui en 2001 demande l'expérimentation de bac pro 3 ans, pour d'autres raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. À l'époque, Jean-Luc Mélenchon, qui est ministre délégué à l'enseignement professionnel, est d'accord avec ça, correspond lui aussi à une autre logique que celle de l'UMM, mais ils sont d'accord là-dessus, et donc on expérimente le bac pro 3 ans à partir de 2001 sur cette double demande, cette rencontre hein, entre une demande du monde industriel et une demande du monde scolaire, enfin d'une partie du monde scolaire. Bon voilà, pour le cadre historique, alors j'ai oublié de le préciser évidemment, pour les enseignants, progressivement, l'exigence de recrutement monte, hein, et donc notamment du côté, il y a eu un très beau livre de Lucie Tanguy sur cette question, et c'était de, je crois, 1988, qui montre que, évidemment, du côté de l'enseignement professionnel, progressivement, le recrutement qui était essentiellement, ouvrier qualifié, va à la fois, d'abord, se tertiariser, puisque, Aziz l'a rappelé hier, progressivement, les disciplines industrielles ont diminué, ça a suivi l'évolution du pays, de l'économie du pays, et les disciplines tertiaires les ont remplacées. Or, dans les disciplines tertiaires, évidemment, on recrute des enseignants qui sont, en général, au moins avec le bac, puis ensuite avec des diplômes supérieurs. Et puis, du côté industriel, progressivement, on est monté vers le recrutement niveau BTS, ce qui a assez profondément transformé la structure du corps enseignant, surtout dans les spécialités industrielles, qui recrutait jusque-là des ouvriers qualifiés, d'origine populaire, qui avait passé un CAP, puis qui ensuite était dans une progression de carrière qui les amenait à devenir enseignants, pour aller vers un recrutement qui se rapproche aujourd'hui du recrutement des professeurs d'enseignement général, puisqu'on a recruté essentiellement des gens qui avaient des bacs ou des BTS. Alors je précise quand même, c'est intéressant, hein, que dans les critères de recrutement, vous le savez sans doute, pour les professeurs d'enseignement professionnel, s'il n'y a pas le diplôme exactement équivalent, on va dire par exemple, on le dit encore, c'est encore valable pour certaines spécialités, on recrute avec un bac plus 5 ans de pratique professionnelle comme cadre. Ce qu'on ne demandait pas avant. C'est-à-dire, vous voyez, on est passé de un CAP plus 5 ans de pratique professionnelle comme ouvrier qualifié à un BTS ou un bac plus 5 ans de pratique professionnelle. Bon, voilà. Mais on a toujours cette double finalité qui est à la fois former des gens qui sont censés devenir des employés et des ouvriers et puis, en même temps, leur offrir un cadre d'études suffisamment exigeant pour qu'ils puissent éventuellement continuer vers l'enseignement technique supérieur. Bon, voilà. J'ai été un petit peu long, mais pas trop. J'ai réussi à me contenir. Comment je passe à la droite de ça? Voilà. Un petit bilan statistique. Je vais essayer d'être bref, mais c'est quand même, je crois, important de le rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier. Aujourd'hui, les lycées professionnels représentent un tiers des lycéens. C'est quelque chose qui est assez peu entendu dans l'éducation nationale. Pour avoir travaillé un an comme chargé d'études au ministère de l'Éducation nationale, rue Grenelle, je peux vous assurer que le niveau d'ignorance sur la réalité de ce que sont les lycées professionnels atteint des sommets qu'il vaut mieux que vous ignoriez, sinon vous allez rapidement déprimer. C'est absolument total. Hein, c'est la plupart des gens, évidemment, les gens ne sont pas passés par là. Et puis la structure, il existait autrefois une direction d'enseignement technique, mais elle a disparu dès 1961. Et donc les personnels qui sont là connaissent extrêmement mal la réalité de l'enseignement professionnel. Ce qui d'ailleurs parfois arrange les corps d'inspection, hein, parce que après tout, être ignoré, ça permet de faire ce qu'on a envie de faire, à peu près tranquillement, sans être trop embêté par un pouvoir central qui, de temps en temps, s'aperçoit que ça existe. Mais en réalité, un tiers des lycéens, quand vous regardez l'orientation sortie de 3e, ça veut dire que 28% des élèves qui sortent de 3e se dirigent vers le lycée professionnel à peu près, hein, c'est variable, mais sur l'autre, c'est à peu près ça. Donc si vous retirez les 10% qui vont en apprentissage et les 4% qui sont autres, qui sont essentiellement l'enseignement agricole ou des gens qui tentent de rentrer directement sur le marché du travail et qui vont dans les dispositifs d'insertion, en fait, vous apercevez que ça fait effectivement à peu près un tiers des lycéens, ce qui se traduit en termes de baccalauréat par donc une proportion significative et qui est actuellement en augmentation par rapport à l'ensemble des bacheliers. Donc là, le chiffre que vous avez, c'est la proportion de bacheliers dans une classe d'âge, dans la population, puisqu'il y a à peu près 65%, le total doit faire à peu près 65%, donc 35% de jeunes français ont le bac général, 16% le bac technologique, et en 2010, 15% avaient le bac professionnel, mais je crois que c'est déjà passé à 17 ou 18 en 2011, parce que l'effet bac pro 3 ans, on va en parler, augmente assez considérablement cette proportion. Bon, voilà pour le bilan statistique, pour que vous ayez une idée de à peu près de ce que ça représente. Alors, j'ai parlé un peu de la complexité institutionnelle. Là, je vais parler maintenant quelques minutes de ce qui fait l'unité, en tout cas d'un des éléments centrales de ce qui fait l'unité, en tout cas apparente, de l'enseignement. Alors là, par contre, j'avais fait aller avec. Bon, il y a des jolies couleurs qui ont disparu, tant pis, c'est pas grave. De ce qui fait l'unité, c'est-à-dire la dimension, on va dire, uniforme du public, ou presque uniforme du public. Les publics de lycées professionnels sont des publics populaires, dominés par les catégories populaires, et ce depuis l'origine. Hein, il n'y a là pas du tout de nouveauté. Hein, l'explication est évidemment relativement simple. Ce sont des établissements qui se donnent comme premier objectif de former des ouvriers qualifiés et des employés. Il y a donc assez peu de chances que les familles de cadres moyennes, de cadres moyens ou de cadres supérieurs veuillent spontanément que leurs enfants se forment à des enseignements qui les conduiront à des statuts qui les font risquer, pour reprendre le vocabulaire sociologique, une mobilité sociale descendante. Sauf certains cas particuliers, comme par exemple les lycées, les filières d'arts appliqués, hein, qui, pour des raisons que Pierre Bourdieu s'est bien montré, peuvent permettre des trajectoires qui sont, pour des élèves qui n'ont peut-être pas forcément une passion pour l'enseignement général, mais certains talents, qui peuvent permettre des trajectoires qui, socialement parlant, ne vont pas nécessairement vers des statuts d'ouvriers. Bref, il n'y a pas de mystère hein, derrière cette idée que ce sont essentiellement des catégories populaires. Donc ça se traduit aujourd'hui par un certain nombre de données. Là où vous avez 33% de redoublants à la fin du collège, dans les populations de collège, vous en avez 69% à l'entrée des LP, donc ça veut dire que, massivement, les élèves qui rentrent en LP sont des élèves, en majorité, des élèves qui ont redoublé, soit le primaire, soit le collège, soit les deux. Alors, dans les catégories sociales, dans le tableau que j'avais réaménagé, j'avais mis des couleurs différentes pour que vous puissiez voir les différentes catégories du tableau, donc ça ne veut plus. Et en tant qu'ancien PLP, je souffre là au niveau pédagogique de ne pas avoir mon tableau. Donc, enfants de chômeurs, 4,8% dans les lycées d'enseignement généraux et technologique, 12,5% en LP. Enfants d'ouvriers, 18,9% dans les LEGT, 36% en LP. Enfants d'employés, 15,18%. Et bien entendu, enfants de cadres, 25%. Je rappelle que les cadres représentent à peu près 14% de la population active française, donc surreprésentation des enfants de cadres. Dans les lycées d'enseignement général technologique, 6,5% dans les LP. Et on pourrait facilement démontrer, d'ailleurs je crois que ça a été fait, que les enfants de cadres en LP sont presque toujours dans des spécialités qui leur permettent, ce que j'ai tout à l'heure, des espoirs d'insertion sociale de bonne qualité, ça va être l'hôtellerie, restauration, les arts appliqués, etc. Bien. Et puis, dernier indice, évidemment, les recensements d'incidents violents ou d'incidents problèmes dans les établissements. Donc, collège 13% pour les incidents recensés, lycée généraux 4%, 15% LP. Les taux d'absentéisme, évidemment, les LP, on en a parlé hier, je n'y reviens pas, battent des records en la matière, mais là aussi, hein, et je rappelle ça tout de suite, ça introduit la diapo suivante, là aussi, bien sûr, les taux d'absentéisme ne sont pas les mêmes, on le sait, selon les spécialités enseignées, selon le fait que les élèves ont demandé ou pas demandé l'orientation, etc. Voilà, donc je vais un peu vite, mais c'est pour rappeler cette dimension cette caractéristique particulière de ce public. Et là, je le dis tout de suite, il est évident que c'est par rapport à ce public, et par rapport à cette dimension à la fois populaire et d'élèves en difficulté, ou en tout cas, j'aime pas le mot d'élèves en difficulté, je préfère dire d'élèves en... comment dire, en inappétence scolaire vis-à-vis de l'enseignement général. Voilà, des élèves qui ont eu, vis-à-vis de l'enseignement général, des relations difficiles, pas toujours d'ailleurs de mauvais élèves, mais des élèves qui n'ont pas trouvé le plaisir à l'enseignement général qu'on leur propose au collège. Donc cette double dimension-là, elle construit l'identité des PLP. Elise l'a largement montré, je suppose qu'il en parlera, donc je n'insiste pas. Mais globalement, c'est d'abord parce que les PLP sont face à ce type d'élèves-là, qu'ils se construisent une identité particulière, qui est une identité, dans les enquêtes que j'ai pu mener, on voit clairement, Aziz le dit encore deux mois, puisqu'il a mené des enquêtes beaucoup plus longues, François Lantôme aussi, que vous verrez, je crois, à la fin de ce séjour, qui se construit, cette identité se construit essentiellement dans une forme d'empathie, si vous voulez, je cherche le deuxième mot que j'utilise d'habitude, il est en train de m'échapper, c'est pas grave, ça me reviendra, d'empathie vis-à-vis d'élèves dont les difficultés sont vécues comme étant des difficultés dont ils sont victimes et non pas dont ils sont responsables. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas dans leurs élèves de mauvais élèves, comme le voient la plupart des collègues de collège et de lycée qui disent « bon, celui-là, il ne travaille pas ». Vous savez, les travaux d'Anne Barrère montrent très bien ça. L'explication majeure donnée par les profs sur l'échec scolaire, c'est « ne travaille pas » ou « ne travaille pas assez » ou « doit faire des efforts ». Donc ils sont pas dans le PLP, en général, n'est pas dans cette logique-là. Il se construit dans une logique de compréhension, très compréhensive vis-à-vis des élèves, et donc une logique identitaire. Et là, aujourd'hui, c'est quelle que soit la discipline enseignée, vous le retrouvez aussi bien chez les profs d'enseignement général que chez les profs d'enseignement professionnel, l'idée que le LP est là pour réparer, pour remédier à un échec dont les élèves ne sont pas responsables, mais qui trouve ses causes à la fois évidemment dans les origines sociales, les difficultés familiales, etc., mais aussi quand même dans une certaine culpabilité des collègues de collège, c'est-à-dire dans l'idée que dans les collèges, on n'a pas fait tout ce qui était possible de faire pour ces élèves, et que les modes, les pratiques pédagogiques dominantes, etc., sont des pratiques pédagogiques qui sont peut-être elles aussi un peu responsables de l'échec de ces élèves. Donc ça, c'est quelque chose de très fort qu'on retrouve dans tous les entretiens. Vous verrez, dans certains entretiens que je vous ai retenus, je crois que ça, les collègues y font allusion, vous le retrouvez, c'est une constante. Vraiment. Alors évidemment, on peut après rentrer dans le détail, on y reviendra éventuellement, pour expliquer pourquoi ça se construit comme ça. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose à un certain public répond une certaine identité professionnelle. Alors ensuite, je passe là-dessus, je viens de le dire, dispersion des spécialités enseignées. Donc c'est pour contraster d'un côté un public qui, vu de loin, semble être un public très uniforme, populaire, en échec, etc. Mais en réalité, quand on connaît bien le système, on sait bien que parmi toutes ces spécialités, il y en a qui attirent des élèves et qui donc ont les moyens de sélectionner de bons élèves, d'autres qui sont au contraire des spécialités plutôt repoussoires, j'en dirais quelques mots. L'idée aussi que, certes, il y a une mosaïque de spécialités, mais il y en a quand même certaines qui dominent plus que d'autres, c'est-à-dire qui, numériquement parlant, accueillent la majorité des élèves. Donc là aussi, un élément de complexité, 43 spécialités en bac pro, mais en réalité, une dizaine dans lesquelles se retrouve la quasi-totalité des élèves, et puis à côté, des spécialités un peu marginales, un peu exotiques parfois, qui répondent à des besoins pointus du système. Un petit mot sur les LP privés, qui sont plus massivement des LP tertiaires que des LP industriels, ce qui tient essentiellement au coût des installations, évidemment. Des LP industriels. Bon, je ne m'étends pas là-dessus parce que je veux respecter le temps de parole. Alors ça, c'est une dimension de division, évidemment, que vous connaissez, mais qui est alors très caractéristique des lycées professionnels. Bien sûr, on peut dire, dans les terminales L, il y a plus de filles, dans les terminales S, un peu plus de garçons, et en terminale ES, c'est mixte. Mais les écarts n'atteignent jamais les écarts très forts que vous observez dans les lycées professionnels, ou les effets de genre, comme disent les sociologues, associés à des stéréotypes, associés à des métiers, fonctionnent toujours très fortement. Alors, il y a quand même des disciplines mixtes, la vente, par exemple. C'est typiquement aujourd'hui une discipline où vous trouvez à peu près à égalité des garçons et des filles, mais sinon, vous continuez d'avoir des disciplines très marquées par les stéréotypes sexuels. Donc, les filles vont... Alors, d'abord, les filles ont moins de choix si j'ose dire, dans les spécialités féminines. Donc elles sont plus regroupées dans certaines spécialités, donc secrétariat du docteur bureautique, sciences et techniques médico-sociales, ou avec des jeunes filles qui veulent s'occuper d'enfants, hein, qui apprennent assez vite qu'elles vont certes avoir à manipuler des couches, mais pas pour les enfants. Pour les personnes âgées, c'est là que sont les emplois. Aujourd'hui, excusez-moi cette mauvaise plaisanterie, mais c'est vrai que c'est un vrai problème pour les spécialités STMS, où les filles viennent avec l'idée qu'elles vont travailler et s'occuper d'enfants, et découvrent assez vite qu'elles vont aller soit à l'hôpital comme aide-soignante, soit dans des maisons de retraite, avec d'ailleurs des taux d'activité très élevés. Il n'y a pas beaucoup de chômage dans ces métiers. Mais on est sur des stéréotypes sexuels qui continuent de fonctionner, ce qui permet de renvoyer à une dimension particulière du choix, puisque j'ai dit que c'était un marché et que les spécialités étaient choisies selon un certain nombre de préférences. Quand on regarde comment fonctionnent ces préférences, elles sont pour une part rationnelles. Les élèves, les familles préfèrent les emplois, où, d'abord les spécialités où elles pensent qu'il y a du travail, où il y a de l'emploi, mais aussi liées à des conditions de travail, la rémunération, le propre contre le sale, la blouse blanche contre la blouse bleue, le costume contre la tenue ouvrier, etc. Il y a toute une série de valeurs comme ça dominantes qui créent des préférences, mais aussi des dimensions liées à la représentation que les jeunes, les enfants se font des métiers. Par exemple, la mécanique automobile continue d'attirer beaucoup les garçons, même si les conditions de travail dans les garages ne sont pas extraordinaires, et si aujourd'hui la manière dont on répare les voitures fait que le plaisir d'écouter le bruit des soupapes a largement disparu et est remplacé par des ordinateurs qu'on branche sur les voitures. Mais il y a comme ça des préférences qui continuent de fonctionner et qui sont très déterminantes pour la structure lycée professionnelle, parce que vous le savez aussi bien que moi, ça va faire des établissements qui ont du mal à trouver des élèves, voire même des spécialités qui sont menacées de disparition, alors qu'elles ont une logique professionnelle. Évidemment, tout le monde connaît l'exemple de la chaudronnerie, de la métallerie, hein, où on cherche désespérément des ouvriers qualifiés et où personne ne veut aller parce que c'est sale, ça fait du bruit, ça fait mal aux bras, on s'abîme, etc. Alors là, c'est pas une question de salaire, c'est vraiment une question d'image sociale du métier. Donc voilà, il y a cette complexité-là aussi qui vient s'ajouter aux autres éléments de complexité et qui rend les choses assez difficiles. Alors, j'ai résumé ça là-dedans. Bon, je vais très très brièvement avant d'attaquer la deuxième partie. J'ai le temps encore, hein, ça va, je peux aller jusqu'à quelle heure ? Ah oui, 10h30. Ah, pas de problème. Mais il faut peut-être laisser un peu de temps d'échange. Oui, voilà, il faut que je m'arrête à 10h15, 10h10, quoi. Voilà. Ok, très bien. Donc, je vais très vite, je résume. Ce qui fait les différences et ce qui fait l'unité. Hein, j'ai essayé un peu de mettre ça en garde. D'un côté, donc, des cultures professionnelles très différentes qui hiérarchisent les établissements, qui font que d'une spécialité à l'autre, le type d'élève est assez différent. Et notamment, puisque je vais parler de mon enquête, je vais essayer de vous montrer on voit apparaître un changement au niveau de cette enquête qui indique qu'un certain nombre d'élèves de meilleur niveau, je vais dire, choisissent aujourd'hui volontairement les lycées professionnels. Je dirais pourquoi, comment ça fonctionne. Mais il est évident qu'on ne va pas les retrouver dans toutes les spécialités. C'est-à-dire qu'il y a des spécialités qui, vous le verrez dans les entretiens que je vous ai donnés, il y a des collègues qui me disent « Ah, c'est extraordinaire, je vois arriver des bons élèves, je n'avais jamais vu avant. » Et puis des spécialités où les collègues me disent « Non, ça ne change rien du tout, c'est toujours les mêmes. » Et donc forcément, c'est très lié à cette structuration par l'offre et la demande des LP. Bon, donc la même chose avec la spécialité. Et un public aussi très différencié, j'en ai pas parlé, mais la question de l'immigration est évidemment forte. Quand j'ai dit tout à l'heure, enseigner en Loire-Atlantique dans un lycée professionnel, ça n'est pas la même chose qu'enseigner à Villeurbanne ou dans la banlieue de Paris, notamment parce que la classe ouvrière, on va dire les classes populaires du Grand Ouest de la France, n'ont pratiquement pas connu l'immigration, et donc sont restées, comme on dit dans ce langage un peu... J'aime pas beaucoup de souche française, et ça se voit, évidemment. Aziz le dit très bien dans un de ses livres, ou dans son livre dont on a parlé, où il souligne que pour beaucoup d'élèves dans ces grandes banlieues, le LP est une double stigmatisation. Je te trompe pas quand je dis ça. Hein, une stigmatisation à la fois, bien sûr, orientation par défaut, j'ai pas réussi à aller en enseignement général, mais aussi, je me retrouve entre Africains, Nord-Africains, éventuellement d'autres sources d'immigration, et donc on voit bien, parce que la classe ouvrière de ces grandes banlieues a été fortement ethnicisée, donc une stigmatisation aussi de couleur de peau, littéralement. Et je dois dire d'ailleurs que c'est une anecdote un peu curieuse, mais qui m'interroge assez fortement moi-même. Mais la première fois que je suis rentré, je vous jure que c'est vrai, dans un lycée professionnel à Nantes, parce que j'allais voir un stagiaire, je suis rentré, je suis ressorti. C'est-à-dire, j'ai cru que je m'étais trompé, que j'étais dans un lycée général, parce que tout simplement, sans m'en rendre compte, il n'y avait pas ni d'enfants maghrébins, ni d'enfants africains. Donc je me suis dit, ça ne doit pas être un LP, il n'y a que des Bretons, c'est pas normal. Mais je vous assure, je ne l'ai même pas conscientisé. C'est là, oui, parce que toute ma carrière, je l'avais faite évidemment en banlieue parisienne, et 90% de mes élèves étaient soit d'origine maghrébine, soit d'origine africaine. Donc je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Et puis après, bon, évidemment, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, tu n'es pas dans une terre d'immigration. Mais évidemment, ça pose un problème, hein, là aussi. Et ça différencie très forcément les établissements, voire vous retrouvez dans les spécialités. C'est-à-dire que c'est là que ça devient extrêmement assez cruel d'ailleurs. Vous pouvez avoir un établissement qui va avoir les spécialités les plus sélectives, où il y aura moins d'élèves d'origine immigrée, et puis à côté des spécialités moins sélectives, où les élèves sont plus massivement d'origine immigrée. Donc ces inégalités sociales deviennent aussi des inégalités ethniques, ce qui évidemment travaille très fortement l'identité des établissements, et celle des enseignants, hein, qui doivent affronter cette réalité. Alors, ce que change la réforme? Bon, là-dessus, je vous parle. Vous avez compris que c'est un PowerPoint un peu multicart. Donc, là, je pense que tout le monde sait ce que change la réforme. On avait une formation en 4 ans, on a une formation en 3 ans, et le BEP, qui était un diplôme phare de l'enseignement professionnel, qui était le premier diplôme professionnel reconnu dans les conventions collectives, etc., évidemment, est un peu noyé dans la certification. Dans le système de certification actuel, tous les enseignants qu'on a interrogés nous prédisent une quasi, sinon disparition, du moins une quasi perte de valeur sur le marché du travail du BEP, puisque évidemment les élèves le passent désormais en cours de première, donc ils n'ont pas atteint en termes de maîtrise professionnelle, technique, le niveau qu'ils avaient après 2 ans de pratique en BEP, et donc du coup la plupart des enseignants ont l'air de craindre que ce diplôme perde sa reconnaissance sur le marché de l'emploi. Je ne suis pas sûr. Cela dit, ce n'est pas impossible. Alors, surtout, donc, les résultats de notre enquête. Donc, je rappelle, Loire-Atlantique, avec des possibilités de biais, notamment celles que j'ai évoquées à l'instant. Comme je veux aller vite, le biais nous est apparu assez clairement. Vous pouvez le voir. Vous voyez, excusez-moi, je ne vais pas aller trop vite quand même. Une population qui, globalement, à gauche, à gauche, la population qui était. À droite, la référence des chiffres nationaux, il n'y a pas de différence majeure, si ce n'est quand même qu'à la rentrée 2009, donc, on semblait percevoir un frémissement de rajeunissement. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si ça s'est confirmé, je crois que oui, mais il ne faut pas, alors on va voir, il ne faut pas se tromper sur l'interprétation. Mais enfin, semble-t-il quand même, une proportion un peu plus élevée d'élèves plus jeunes. Il y avait même, le rectorat de Nantes nous a même dit que il pouvait désormais avoir un chiffre, donner un chiffre de pourcentage aux élèves de moins de 15 ans à la rentrée. Avant, c'était plus qu'epsilon. Il y en avait un de temps en temps perdu. Là, il y avait quand même, je crois, de l'ordre de 2 ou 3% à la rentrée d'élèves de moins de 15 ans. Donc, non redoublants et habituellement, bon, supposés plutôt des élèves de niveau correct au collège. Il y en a un peu plus à 16 ans et moins d'élèves ayant redoublé deux fois. Hein, d'élèves. Donc, il semblerait bien que la réforme produise à vérifier, hein, parce que je suis quand même prudent, on n'en est qu'à la troisième année de mise en œuvre. Il semblerait bien que la réforme produise un certain rajeunissement. Il faut cela dire, se méfier de l'interprétation, parce que l'idée, ça peut être qu'ils sont plus jeunes, donc il y a plus d'élèves qui sortent de meilleurs niveaux, mais en même temps, on sait que les pratiques de redoublement au collège ont de plus en plus diminué. Donc il n'est pas, c'est pas un indice absolument fiable du fait qu'il y aurait des élèves de meilleur niveau qui seraient attirés. En tout cas, ce n'est pas le seul qui serait attiré par le bac pro 3 ans. Alors, juste un mot, donc en dessous, sur les origines sociales, vous voyez que quand on prend la profession père ou mère, les différences, il y a un peu plus d'employés, mais globalement, les différences ne sont pas significatives avec le niveau national. En revanche, c'est quand on regarde la profession des pères, on s'est aperçu à cette occasion qu'en Loire-Atlantique, il y a beaucoup plus d'hommes ouvriers. La population ouvrière est restée très masculine. On fait la supposition, Gilles Moreau qui avait travaillé sur les apprentis disait la même chose, on fait la supposition qu'on est là sur des régions où la culture ouvrière a gardé une certaine valeur dans la population. Alors, sans doute pour en raison des structures d'emploi, il y a beaucoup d'entreprises de PME hein, qui emploient, avec des possibilités d'accéder au statut d'artisan, etc. Mais sans doute aussi parce que la classe ouvrière est très peu ethnicisée. Elle s'est nourrie de l'immigration locale, c'est-à-dire des milieux ruraux qui viennent travailler en ville. Et donc, du coup, il n'y a pas eu cette espèce de forme de dévalorisation du métier ouvrier par l'effet d'immigration. Et donc, on a bien l'impression que on a là des populations qui acceptent beaucoup plus facilement de rentrer dans des carrières ouvrières, techniciennes, etc., que par exemple dans les banlieues, à la banlieue parisienne ou dans la banlieue de certaines banlieues. C'est des phénomènes qu'on retrouve d'ailleurs dans le centre aussi, dans la région centre et dans d'autres, où vous avez moins cette réticence, ce qui veut dire que ça se traduit par moins de réticence à l'orientation en LP, mais ça se traduit aussi souvent par une demande d'orientation en apprentissage, une forte demande d'apprentissage. Ce qui fait d'ailleurs que le succès de la réforme dont je vais parler après tient aussi en partie à la crise économique, parce que beaucoup d'élèves avaient demandé l'apprentissage, mais les PME ont moins de place, embauchent moins, et du coup, ils viennent en LP par défaut, mais pas par défaut par rapport à l'enseignement général, par défaut par rapport à l'apprentissage. Ce qui est finalement un peu horrible. C'est peut-être général, oui, je ne sais pas, je me méfie. Hein. Alors ça, c'était pour la population. Alors voilà, nos résultats, ceux qui nous ont vraiment étonnés. Donc sur 538 élèves, mais en fait un peu moins de 500 en Loire-Atlantique, on a pris quelques établissements témoins en région parisienne. Mais alors je précise que dans la région parisienne, on a retrouvé les mêmes réponses malgré tout. Des élèves qui nous disent, on te pose la question, qu'est-ce que vous avez demandé dans le premier choix au moment de la troisième, au moment de la demande d'orientation ? Premier choix, 71%, le LP. Les gens qui sont là ont demandé le LP en premier choix. Ils n'ont pas d'abord demandé autre chose. Ils ont mis le LP en premier choix. Et si on ajoute les 16% qui avaient demandé l'apprentissage, ça nous fait dans ce public 87% des élèves présents en zone professionnelle à la rentrée 2009 avaient demandé une orientation en établissement professionnel. Donc évidemment, alors, cette enquête-là, je crois qu'elle n'avait jamais été faite avant. Aziz, je crois que ça n'avait jamais été fait. Évidemment, on ne peut pas savoir, si on avait posé la question il y a 10 ans, est-ce qu'on n'aurait pas eu les mêmes réponses. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a toujours la possibilité que des élèves intègrent tellement le jugement de l'institution sur leurs résultats, subissent plus ou moins les pressions des profs élèves, pour demander ça en premier choix. Quand même. On pense quand même qu'il y a là un petit phénomène qui est très probablement, une croissance de cette demande, le fait d'assumer ces demandes, qui est, j'y reviendrai après, qui est très probablement le produit de la réforme. Parce que cette réforme, on va le voir avec des citations, j'anticipe sur ce que je vais dire après, mais cette réforme, elle crée une égalité symbolique entre le bac pro, le bac général, le bac techno, et les familles sont extraordinairement sensibles à cette égalité symbolique. D'ailleurs, j'ai entendu hier un collègue qui disait la même chose à propos de leur bac d'un diplôme un peu marginal, mais dont les élèves pouvaient dire à l'extérieur, voilà, je suis au lycée, comme vous. Et ça, cet effet-là, je pense, fonctionne. Alors, ensuite, la question est posée fin octobre, êtes-vous satisfait de l'orientation ? 81%, et même 42% très satisfait. Donc on a là quand même un espèce de phénomène d'adhésion à cette orientation qui nous a paru digne d'intérêt, hein, qui nous semble pouvoir dire que probablement par rapport à ce qui se passait avant, le sentiment d'une orientation par défaut est sans doute un peu diminué et qu'il y a sans doute une proportion significative d'élèves qui disent c'est un choix, même s'il faut prendre toutes les précautions que j'ai indiquées à l'instant. Alors quand on regarde pourquoi et que nous disent ces élèves, d'abord, et c'est ce qui nous a frappé, unanimité des 20, je ne sais plus, 20, 25 ou 27, je n'ai pas le chiffre en mémoire, c'est dans ces eaux-là, unanimité absolue des élèves interrogés. J'ai appelé ça l'inappétence scolaire, hein, une dénonciation, ou en tout cas une forte manifestation de l'absence totale d'intérêt pour l'enseignement général. Et qui remonte parfois loin. Certains nous disent ça remonte à l'école primaire. Soyons justes, la plupart nous disent c'est le collège. À partir du moment où j'entre au collège, ça ne m'intéresse plus. Alors j'ai donné une situation, j'en avais marre des cours généraux. Je ne sais pas pourquoi, là, j'étais passé des petites. C'est pas grave. Ça se passait mal, en fait, je me levais tout le matin pour me dire, mais en fait, qu'est-ce que je fous en cours, etc. Et ça, alors là, c'est un discours, mais unanime. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est quels qu'aient été les résultats au collège. on avait, j'avais dans le panel interrogé des élèves qui nous disaient avoir 12 ou 13 de moyenne au collège, y compris dans les disciplines françaises. Mais non, c'est pas possible, j'en peux plus, je veux m'en aller, je veux faire autre chose. Et alors, ce qui m'a intéressé, là, c'est pas nouveau pour nous, sociologues, rapport au savoir, il va vous en parler, ensuite, c'est pas surprenant. Ce qui l'est plus, ce qui est surprenant, c'est que même les bons élèves le disent. Ça, c'est ça qui m'a étonné. C'est que même ceux qui sont bons élèves le disent. Et alors, ce qui est aussi assez étonnant et qui m'a surpris un peu plus, je dirais, c'est aussi cette plainte sur la contrainte physique de la forme scolaire. C'est-à-dire, les élèves, ils nous disent, et ça, c'est le fait, je peux pas rester assis, c'était quasiment, je crois qu'il n'y en a pas un qui nous l'a pas dit, à un moment ou à l'autre. C'est traduit par, je peux pas rester assis. C'est-à-dire la souffrance du corps. L'école est quelque chose qui nous empêche de rentrer dans l'action, dans le pratique. Il y a même une élève qui nous a regardé avec des yeux brillants pour dire « C'est formidable, j'ai fait un stage de caissière chez Monoprix. Ça, c'est bien, c'est de l'action, on a bougé, j'ai fait... » Comment vous dites caissière? Alors, ça ne veut pas dire qu'elle veut devenir caissière. Hein. Ça veut dire qu'elle est heureuse de mettre en pratique des compétences qu'elle sait posséder. En vente, c'est très fréquent, les élèves qui nous ont dit « Ah, mais moi, j'adore ça parce que j'ai le contact avec le client. D'ailleurs, mon employeur, il va me garder, etc. » Il y en a une qui était amoureuse de Pantachop aussi. Hein. Elle était à Pantachop à Châteaubriand. Elle n'avait qu'une idée, c'est de retourner à Pantachop à Châteaubriand. Ce qui ne veut pas dire, elle non plus, qu'elle n'a pas, je vais y venir, des projets autres. Mais sa formation passe par là. Et le besoin de rentrer, d'être en action, d'être en rapport avec la pratique sociale, j'ai envie de dire, d'être des acteurs sociaux, des professionnels, est très très forte. Et ça m'a frappé. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, qu'on ne puisse pas généraliser cette question à beaucoup de jeunes, y compris ceux qui font dans l'enseignement général. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir. Ce qui était intéressant pour nous, c'était l'unanimité de ce discours. Quels que soient, par ailleurs, les parcours scolaires antérieurs, redoublement, pas redoublement, bons élèves, pas bons élèves. C'était l'unanimité de ce discours. Et donc certains qui nous disent, du coup, j'aurais préféré même carrément faire un BEP ou de l'apprentissage. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais mes parents, eux, n'ont pas voulu. Mes parents n'ont pas voulu. Alors, les rapports aux parents sont assez intéressants parce que on retrouve tout à fait ce que beaucoup de sociologues critiquent, qui est l'idée que beaucoup d'enseignants du collège disent « Ah, les parents ne veulent jamais, ils sont démissionnaires, etc. » Non, ce ne sont pas des parents démissionnaires. Tous les élèves qu'on a interrogés dialoguent avec leurs parents. Par contre, ce sont des parents d'origine modeste dont le capital social ne leur permet pas nécessairement d'envisager clairement les stratégies scolaires possibles. Donc oui, parfois, ils disent aux enfants « Fais ce que tu as envie de faire, fais ce qui te plaît le mieux. » Mais quand même, si tu peux continuer des études, continue des études. Donc là, on est vraiment, et on le voit, c'est Tristan Poulaouet qui le dit dans un livre qui s'appelle « Le diplôme à rendre les faibles », on est désormais dans une société où toutes les classes sociales, y compris les plus modestes, considèrent que le diplôme et la poursuite d'études, c'est un horizon normal pour leurs enfants. Et donc, vont chercher à poursuivre ça. Mais, et c'est là que j'en arrive donc à ce qui est, je crois, la conclusion de notre enquête et ce qui nous a le plus intéressé. L'effet bac pro 3 ans à ce moment-là, c'est quoi? C'est ce que j'ai décrit là. C'est cette jeune fille qui nous dit, alors le bac pro, on est tous égaux, on a tous le même parcours, on va tous avoir le bac à la même année, et après, on pourra faire les mêmes études après. Et alors ça, discours unanime. Et donc, c'est ce que je signale en dessous, 59% des élèves interrogés ont bien rentré en seconde avec le projet de continuer en BTS. Ce qui veut dire que, et tous les profs nous l'ont dit, le BEP c'est terminé dans leur tête. Ils vont au bac de toute façon. Ils sont là pour aller au bac. D'ailleurs les profs les encouragent. Mais si vous voulez, on les a interrogés sur ce qu'on appelait encore la certification intermédiaire, parce que le vocabulaire n'est pas encore changé en 2009, qui est le diplôme intermédiaire. Réponse encéphalogramme plat. Quelques-uns nous disent oui, bah oui, c'est bien, on l'aura comme ça, si jamais. Enfin, vraiment, la vitesse à laquelle ça a été effacé des représentations des élèves qui se sont immédiatement inscrits dans la logique bac est extrêmement étonnante. Hein, ça a été extrêmement rapide. Donc, évidemment, les conséquences, et j'en aurais à peu près terminé, j'avais prévu d'autres éléments, mais je vais juste aller sur la dernière pour conclure. Mais on voit bien ce qui se passe, hein, c'est qu'on a des publics qui désormais ont le sentiment qu'ils sont dans un établissement qui est d'égalité symbolique avec les autres, donc qui, pour la moitié, plus de la moitié d'entre eux, largement, se construisent des projets de résultats. Et en plus, nous, on a interrogé, je vais vite, mais on a interrogé la deuxième année, et en deuxième année, on s'est aperçu que ces projets-là se confirment, et même que d'autres élèves en construisent, ceux qui n'en avaient pas au départ, en construisent aussi. Parce qu'ils discutent avec les profs, ils se renseignent, ils découvrent des possibilités, etc. Donc, des élèves qui rentrent dans cette logique, des publics plus hétérogènes, en tout cas dans certaines spécialités, et une quasi-disparition de la référence au diplôme intermédiaire DEP CAP. Sauf pour les élèves qui estiment que ça va être trop dur pour eux de tenter un bac pendant 3 ans, d'où une certaine pression sur les entrées en CAP. CAP 2 ans cette fois, où vous avez une série d'élèves là qui, on l'a bien vu, le recteur a nous l'a confirmé, il y a une double pression, il y a à la fois une pression des effectifs sur les secondes bac pro, avec des élèves qui veulent aller au bac, avec des projets post-bac, mais aussi certains qui anticipent un échec et du coup qui vont vers le CAP 2 ans, pour une partie d'entre eux. Ça veut dire évidemment que un des enjeux forts là de ce qui va se passer, j'ai pas encore parlé des questions d'identité professionnelle des CPP, mais un des enjeux forts, ça va être: est-ce que vraiment tous ces élèves qui ont ces projets-là vont, un, pouvoir accéder à une formation post-bac, notamment un BTS, est-ce qu'ils vont y réussir, dans quelles conditions, etc. Et que vont devenir ceux qui vont échouer au bac, et qui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, et qui auront un BEP ou un CAP dont on peut craindre que la valeur marchande sur le marché du travail soit réduite. Là, on a de vraies questions. Alors, je passe et je termine en allant. Donc, là-dessus, je passe. C'était. Voilà, les PLP, qu'est-ce que ça donne pour eux? Alors, je passe sur ce que j'avais indiqué, les tensions identitaires initiales, j'en ai parlé un petit peu, les PLP, etc. C'est finalement la dernière ligne, le dernier paragraphe qui nous intéresse. Ce collègue de Mécanique Moto a formidablement bien résumé la nouvelle tension qui travaille l'identité des PLP et qui remet en cause cette identité collective que j'ai très rapidement identifiée tout à l'heure en vous disant une identité de compréhension des élèves, une identité centrée sur la remédiation à l'échec, sur l'aide aux élèves en difficulté. Et là, tout d'un coup, voilà ce collègue qui nous dit: si la réforme, c'est faire du bien aux bons élèves en faisant du mal aux élèves qui sont en difficulté, moi, je ne veux pas trancher entre les deux. Et là, il résume en une phrase ce qui va forcément être, pour beaucoup de PLP aujourd'hui, pas tous, hein, ça dépend de spécialité, mais pour beaucoup d'entre eux, la difficulté. Ils vont se retrouver dans la même situation que se retrouvent les professeurs, certains professeurs de collège ou de lycée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille pour les... Alors, selon les disciplines, il y en a des collègues qui nous ont dit j'en ai 2 ou 3 qui sont bons, d'autres qui nous ont dit j'en ai 20. Est-ce que je travaille pour cela? Qu'est-ce que je fais de ceux qui sont en difficulté? Qu'est-ce que c'est que l'aide personnalisée? Comment on la met en place, etc. Donc des tensions identitaires qui jusque-là étaient peu travaillées. Jusque-là, les PLP, ils étaient contents quand ils emmenaient un bac pro en BTS. Ça faisait partie de leur satisfaction. Mais ce n'était pas l'objectif de la formation. L'objectif de la formation, c'était de garantir un bon BEP, de garantir un bon bac pro, et de s'occuper donc de la majorité des élèves qui étaient en délicatesse avec l'enseignement. Là, ils ont une proportion d'élèves, donc ils vont être travaillés par cette tension-là. Et puis l'autre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question des stages. Alors là, ça a été unanime aussi chez les collègues. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'un élève de 14 ans à qui on demande d'aller en stage? Donc, alors, quand c'est le commerce, encore ça va, mais quand c'est l'industrie et qu'il y a des machines, enfin, je passe sur les... Plus aussi des problèmes de mobilité. Hein, des élèves de 14 ans, ils ont juste un scooter, ils veulent pas. J'ai eu l'exemple d'un collègue qui nous dit Saint-Nazaire, qui nous dit ils ne veulent pas franchir le pont pour aller de l'autre côté de la Loire, etc. Donc là, évidemment, des difficultés de gestion de ce public. Vous verrez dans les. Je crois que j'ai dans les documents que j'ai donnés, je crois qu'il y a un document où on voit un collègue qui nous dit qu'il est catastrophé parce qu'il a un de ses élèves qui s'était endormi dans une baignoire sur un chantier du bâtiment. Le patron l'a trouvé, évidemment, ça a clashé. Et les patrons qui disent: mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne nous envoyez pas des élèves comme ça avant? Parce qu'évidemment, les bac pro avant, ils avaient au minimum 17 ans. Donc il y a une difficulté de gestion qui se pose. Donc vraiment, pour l'identité des PLP, cette réforme a des effets qui vont forcément les mettre en tension et qui vont souvent être difficiles à gérer, sachant encore une fois que selon les spécialités, selon les lieux, ça va se jouer de manière très diverse. Bon voilà, ben, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire sur la question. Et donc je crois qu'on a un quart d'heure éventuellement pour un petit échange. J'ai été vite, j'ai un peu brusqué à la fois et l'histoire et la sociologie, je m'en excuse.